à tous et à toutes. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé tout le monde. Mais bon. Bien, nous allons aujourd'hui aborder la thématique du fanatisme religieux. Avant de parler de littérature de l'imaginaire, je pense que cette thématique s'ancre directement dans l'actualité lorsque, que ce soit les manifestations montées par des catholiques intégristes contre le mariage pour tous lors de l'année précédente, ou que ce soit les annonces de jeunes qui se fanatisent de plus en plus au niveau de l'islam. On entend aujourd'hui des jeunes qui partent en Syrie. Pourquoi ? Comment ? Alors, ce sont des thématiques qui sont en lien direct avec l'actualité, mais ce sont également des thématiques qui sont abordées depuis longtemps ou récemment dans la littérature de l'imaginaire. Souvent, faire un pas sur le côté en prenant l'aspect imaginaire permet d'éviter d'attaquer directement des problèmes ou des groupes de personnes qui sont en action aujourd'hui, mais regarder plutôt comment les dérives poussées à leur extrême peuvent aboutir à des comportements de mal-être. Moi, je pense à certains des personnages de Pierre qui ont subi cet embrigadement dès le départ. Donc, pour en parler avec nous, nous avons François Barranger, qui vient de sortir un diptyque, Dominium Mundi, qui reprend la thématique des croisades.
Absolument.
Voilà. Francis Berthelot, qui, je pense, va aussi s'appuyer sur son expérience personnelle des événements récents de l'actualité et aborder le problème du fanatisme religieux aujourd'hui dans la société occidentale telle qu'elle est, jusqu'où ça peut mener. Et enfin, Pierre Bordage, au niveau des romans que vous avez écrits, la difficulté est de trouver lequel n'aborde pas d'une manière ou d'une autre le problème du fanatisme et le problème du lien à la spiritualité. Comment ce lien peut être utilisé à des fins d'embrigadement, de conditionnement, et peut-être aborder également votre regard sur l'actualité et sur la manière personnelle dont vous avez eu peut-être d'ailleurs on va commencer par Pierre.
Oui. Il en faut un. Hein.
Oui. Tout d'abord, dans l'histoire personnelle, je pense que vous avez un lien particulier avec la religion.
Oui, ça vient de mon enfance. Je suis né en Vendée, donc une terre profondément catholique, comme on dit. Et donc, comme j'avais des sortes d'élan mystique quand j'étais petit qui était difficile à expliquer, d'ailleurs, il n'y a pas d'explication aux élans mystiques, c'est ça le truc. Alors que j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit séminaire, il faut que tu deviennes prêtre, mon enfant. Et donc, je me suis retrouvé au petit séminaire, donc 4 ans à Chavagny-en-Paillé, je conseille à personne. De toute façon, ça n'existe plus, donc c'est pas très grave. Et pendant 4 ans, j'ai subi, disons, un enseignement religieux qui m'a éloigné complètement de ce que je ressentais quand j'étais enfant. C'était même exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'était un conditionnement pour faire de moi un parfait soldat de la foi, pour que je puisse aller évangéliser à mon tour les masses. Et donc, je suis ressorti totalement dégoûté de la religion au bout de 4 ans, l'ayant étudié dans ses ressorts profonds, parce que j'ai passé mon temps à lire la Bible, les évangiles, etc. Et donc j'ai eu un rejet très très violent de la spiritualité, enfin de la religion. Et puis comme j'ai jeté l'eau du bain avec le bébé, ou le bébé avec l'eau du bain, j'ai rejeté aussi la spiritualité, parce que j'ai confondu à ce moment-là, où j'ai pensé que spiritualité et religion c'était la même chose et conduisait toutes les deux à des impasses. Et il a fallu que j'attende après 20 ans lors d'un voyage en Inde, qui est un pays profondément mystique, bien que religieux aussi, pour retrouver cette espèce d'essence de respiration mystique que j'avais ressentie quand j'étais enfant. Et donc pour me dire, finalement, il y a peut-être une différence entre la religion et la spiritualité. Peut-être que la spiritualité, c'est quelque chose justement de l'ordre de l'expérience pure, personnelle, donc un chemin vers la liberté, tandis que la religion, qui est une exploitation de la spiritualité, n'est qu'un chemin vers l'emprisonnement. Voilà. Et donc, une grande partie de mon travail au niveau des romans, et c'est vrai que la science-fiction, là, sert de prétexte, souvent, pour en parler, ça a été d'essayer de distinguer l'aspiration spirituelle, qui, je pense, est propre à chaque individu, mais ça, je ne parle que de mon expérience, donc je ne parle que pour moi, qui m'est propre, disons, de la distinguer de la religion et d'essayer de me défaire le plus possible de toutes sortes d'embrigadements ou de conditionnements, puisque j'ai l'impression que à partir du moment où un prophète apparaît sur la place, que ce soit le Christ, Bouddha, Mahomet, enfin tous ces grands qui se sont succédés, il y a eu là-haut avant, il y a eu toute une vague de réformateurs d'ailleurs religieux au 6e siècle avant Jésus-Christ, qu'à partir du moment où ce sont les disciples qui prennent le relais du prophète, il y a déjà un gouffre qui se crée entre l'enseignement et ce que les gens en font. C'est-à-dire qu'on passe à l'intellectualisation des choses parce qu'on n'a plus l'expérience. En fait, je pense que la religion est un défaut d'expérience, c'est un manque d'expérience. C'est-à-dire que les gens, ils sont obligés de compenser leur manque d'expérience par le dogme ou par un système de croyance, quoi. Et donc, voilà, c'est là-dessus que je me suis beaucoup interrogé en permanence sur cette différence-là. Parce que je pense qu'il y a une dimension spirituelle à l'humanité et qu'il est urgent de la retrouver parce qu'elle est très importante et qu'elle peut certainement nous emmener vers des lendemains un peu plus sympathiques. Mais voilà, c'est essayer de démêler le bon grain de l'ivraie, comme on dit dans les évangiles. Et je me suis aussi, j'étais aussi stupéfié quand j'étais au petit séminaire par la différence, et on en parlait juste avec Georges avant, là, la différence extraordinaire entre les évangiles, qui sont canoniques, donc reconnus par l'Église, donc probablement édulcorés, recopiés selon les intérêts de l'époque. Malgré tout cela, il en sort un enseignement dont l'Église fait exactement l'inverse. Regardez, tout, à peu près tous les enseignements du Christ sur les oiseaux des champs qui ne sèment ni ne moissonnent, etc., sur le non-attachement matériel, l'Église catholique fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, même par rapport à leur propre livre, qui probablement est déjà un peu détourné par rapport à l'origine, eh bien, ils sont à l'opposé de ce qu'ils racontent. Donc voilà, ça m'a toujours un peu sidéré, et ouais, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, de recherche, et j'ai essayé de m'intéresser à des enseignements différents, comme le Tao, ce genre de choses, qui sont des enseignements en permanence paradoxaux, qui empêchent justement la fixation, de se figer dans des dogmes.
Voilà. Merci. Francis, vous, votre expérience de vie est, je crois, complètement différente, en tous les cas le lien par rapport à la spiritualité. Et néanmoins, dans vos romans, vous retracez une forme de spiritualité.
Tout à fait. Ça me fascine de voir à quel point la trajectoire de Pierre part d'un point diamétralement opposé au mien pour arriver sensiblement au même endroit. Moi, je suis né... Enfin, ma mère est née à Lourdes. Et mon arrière-arrière-grand-oncle, donc par ma mère, est un des trois premiers miraculés de Lourdes authentifiés. Il s'appelle Louis Bourriette. On trouve son nom même dans les films sur Bernadette. Donc il y a cette très forte tradition du côté de ma mère. Mon père, lui, était fils de cheminot communiste. Donc quand ils se sont mariés, mes parents ont dit à leurs familles respectives, vous nous foutez la paix, nous ne ferons pas baptiser nos enfants, nous leur laisserons le choix et c'est eux qui décideront. Moyennant quoi, mon frère est resté un athée convaincu, moyennant quoi ma nièce a rencontré Dieu et se convertit au protestantisme quand elle avait une vingtaine d'années, et elle est chercheuse en histoire des religions. Quant à moi, j'ai eu une pratique des arts martiaux qui m'a ouvert déjà au taoïsme et au bouddhisme. Et puis en juillet 78, j'ai pris mon premier LSD. Et là, j'ai eu vraiment la grande révélation mystique. J'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré mon ange gardien, j'ai vécu la solitude du prophète dans le désert. Enfin, j'ai vraiment eu une extase, une expérience mystique. Et dans le train, en revenant, ça se passait à la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer, Et dans le train en revenant à Paris, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vécu, ça doit être ce que les chrétiens vivent quand ils prient. Donc l'Église ne sert strictement à rien, on peut communiquer directement avec Dieu. Ça, c'était donc fin juillet, début août 1978. Donc je me dis, l'Église ne sert à rien, le pape ne sert à rien. Et j'arrive à la gare de Lyon et je vois les gros titres des journaux, le pape est mort. Je trouvais que le pape venait de mourir. Bon, coïncidence. Donc, la religion en tant que telle ne m'a jamais préoccupé. D'ailleurs, mes premiers rapports, moi, à la religion, je me rappelle quand j'avais 5 ans, ma grand-mère, ma maternelle, donc celle qui vient de Lourdes, nous a amenés dans une église en Bretagne pour assister à je ne sais pas quoi. Et il a fallu me faire sortir parce que je poussais des hurlements de terreur devant ce type en noir qui marmonnait des choses. C'était terrifiant pour moi. Donc on m'a fait sortir et puis 2 ans après ou 3 ans après, on m'a amené à Lourdes et j'ai vu le défilé des pèlerins, des éclopés, des manchots, des boiteux, des culs de jade, de tout ça qui allait à la grotte. Et j'ai fait une scène à mes parents leur disant « Vous n'auriez jamais dû me montrer une chose pareille. » Donc voilà, c'était bon. Cela dit, mes parents m'ont inculqué une chose à laquelle je crois profondément, c'est la tolérance. Et bon, c'est quelque chose que c'est une des valeurs qui m'inculquait, que je garde profondément. Et comme mon frère était un peu choqué de voir sa fille brandir la Bible, je lui ai dit, rappelle-toi, au même âge, tu brandissais le petit livre rouge de Mao Tse-Tung. C'est pareil, hein, donc ne la juge pas. Et me suis accroché avec ma nièce une fois, la seule fois d'ailleurs de toute notre vie, le jour où elle m'a dit, ma religion n'est pas la meilleure, c'est la seule vraie. Alors là, j'ai retroussé mes mains, je lui ai dit, écoute, Catel, je ne mets pas en cause ta foi, mais tu ne peux pas non plus nier le fait que dans le monde, il y a des millions d'autres personnes qui ont une autre religion et qui sont aussi sincères que toi dans leur foi. Alors, elle n'était pas très contente. Puis après, elle est devenue complètement œcuménique, comme c'est une fille intelligente. Bon, elle a très largement dépassé ce niveau. Et cela dit, une chose qui pour moi reste un objet de stupeur totale, c'est le fait que ces trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam passent leur temps à se foutre sur la gueule sans se rendre compte que s'ils sont monothéistes, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, et s'il y a un seul Dieu, c'est forcément le même pour tous, donc c'est le même pour les trois, donc ils ont le même Dieu. Alors pourquoi se battent-ils, hein ? Bonne question. Voilà. Donc, ils croient aux institutions qui en dérivent. Et voilà, exactement. Donc, tout à fait, tout à fait. Et donc, alors, la spiritualité, elle est présente dans mes romans, c'est-à-dire que, mais de manière complètement païenne, je dirais, où les personnages... Après leur mort, ont des âmes qui vivent différentes expériences. Certaines sont emprisonnées, gardées dans des espèces d'aquariums où on en fait des choses bizarres. D'autres vont dans des cercles de l'enfer où elles tournent en rond. Le but final d'une âme, c'est de s'évader dans la lumière blanche. Bon, c'est à peu près ça la manière dont les âmes sont traitées dans mes livres. Mais la question de la religion n'est jamais abordée parce qu'elle ne me concerne pas du tout. Et j'ai commencé à m'en inquiéter fort, justement, l'année dernière, hein, quand on a vu...
La religion a commencé à s'intéresser à toi.
Quand la religion a commencé à s'intéresser à moi et ma vie privée, là, ça... Bon, déjà, l'islam, je le regardais d'un mauvais œil parce que je trouvais que c'était... Bon, tuer des gens au nom d'une religion, je trouvais ça quand même un peu ringard. Et puis quand les cathos s'y sont mis aussi, je me suis dit, bon, mais vraiment, ça va pas du tout. Voilà, bon, je vais peut-être passer.
Oui,
ils se sont remis, oui, exactement.
Donc, et vous, François Barranger, avant de parler de votre livre sur une reprise des croisades, qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser aux faits religieux
Moi, en fait, c'est pas l'aspect, contrairement à mes deux éminents confrères, c'est pas l'aspect spirituel de la religion qui m'a le plus intéressé, ou plutôt que j'ai le plus traité dans Dominium Mundi, c'est la religion en tant que système politique. C'est-à-dire en tant qu'outil de domination des peuples et de en fait, pour moi, j'ai toujours vu la religion comme une, à l'époque médiévale ou même féodale, comme une manière de, à une époque où on pouvait pas, on n'avait pas des forces de police développées comme aujourd'hui, ou une armée développée, ou même un système éducatif qui permettait de, sans l'aspect péjoratif, formater les gens.
Attention.
Et les, pardon, et les, je parle beaucoup avec les mains.
Oui.
C'est incompatible avec le micro. Ouais. Et du coup, la religion, à cette époque-là, selon moi, c'était vraiment l'outil idéal pour que les gens ne se rebellent pas et n'aillent pas chercher plus loin, parce qu'on avait tout simplement, concrètement, la peur de l'enfer. C'était à cette époque-là une peur concrète et au premier degré. Si je ne fais pas ce qu'on me dit, si je ne fais pas mes prières régulièrement et si je n'obéis pas à la hiérarchie en général, je finirai en enfer et pour l'éternité. C'est quand même pas rien comme menace. Donc moi, cet aspect politique, ça m'intéressait, parce que surtout par rapport aux croisades, puisque les croisades, bon, c'est bien quand même historiquement que c'était le fait religieux était un prétexte et que c'était évidemment des guerres de conquête ou des guerres politiques. Et cet aspect des choses est plus présent, je pense, dans mes récits que l'aspect spirituel. Mmh. Et la deuxième chose qui m'intéressait, c'est les contradictions extraordinaires qu'on peut trouver dans les sociétés très religieuses. Et comment on peut, quand on est extrêmement croyant, louer Dieu pour les belles choses, les choses magnifiques qu'on voit autour de soi, les merveilles de la nature, etc. Et ne pas le blâmer pour les choses terribles qui nous entourent en permanence, comme les catastrophes naturelles, les maladies, la mort, enfin toutes les choses horribles qu'on voit au quotidien dans n'importe quel genre d'information. Et ça, c'est quand même une contradiction qui m'a toujours frappé. Ou comme on disait tout à l'heure, sur le dès qu'il y a une catastrophe naturelle terrible quelque part, comme un raz-de-marée ou un tremblement de terre, et qu'on voit que derrière ça, il y a une poussée spirituelle très très forte, parce que les gens remercient Dieu de les avoir épargnés au cours de cette catastrophe, au lieu de le blâmer, de leur avoir envoyé cette catastrophe terrible.
Et ça, c'est quelque chose qui me... s'interroger sur les causes effectives ou sur la façon de rationnellement se protéger.
Oui, ou même tout simplement, je pense qu'on ne peut pas faire le tri. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Dieu est formidable parce qu'il a créé, regardez, toute cette profusion d'espèces animales toutes plus fabuleuses les unes que les autres, ces merveilles qu'on voit dans la nature autour de soi, ou même le miracle de la vie, tout simplement, au sens le plus basique du terme. Et puis après, ne pas se voiler complètement la face sur le fait qu'il a aussi créé, si on admet son existence, des maladies absolument atroces, qu'il a créé des injustices terribles au niveau individuel, mais aussi au niveau, des peuples, de peuples entiers. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe vraiment beaucoup. Mmh. M'a toujours étonné.
D'accord, donc c'est à partir de ces réflexions que vous avez souhaité parler plus dans un roman.
Non, c'était pas, j'ai pas fait un roman pour parler de la religion. C'est-à-dire que j'étais parti d'une idée que je trouvais amusante, qui était de transposer, dans les grandes lignes en tout cas, la première croisade dans un contexte de science-fiction. Et parce que les croisades, au-delà de l'aspect tristement historique et des drames que ça a engendré, c'est quelque chose dans l'imaginaire collectif qui est très riche, qui est très romanesque. Et c'est un genre qui n'est pas... plutôt, c'est un thème qui n'est pas très présent dans la littérature de genre, et encore moins au cinéma, où il y a très peu de films qui traitent des croisades, par exemple. Et peut-être parce que c'est un peu risqué, parce qu'évidemment, on manipule des thèmes qui sont un peu parfois sensibles. Mais moi, ça m'intéressait de mélanger le côté extrêmement archaïque que peut avoir la première croisade, qui se déroule quand même il y a 1000 ans. Donc, en plus, là, je suis 200 ans dans le futur, donc 1200 ans plus tôt. Donc, c'est vraiment un monde. Les mentalités, les façons de penser, les façons de vivre sont extrêmement différentes, beaucoup plus que par rapport à la Renaissance, par exemple. à laquelle on se sent encore connecté, on lit encore des livres d'auteurs de la Renaissance, etc. Je me mets au défi de trouver quelqu'un qui lit encore des livres du haut Moyen-Âge, quoi. C'est quand même très très rare, quoi. Et donc ce contraste, j'avais le sentiment qu'il était, qu'il avait un bon potentiel romanesque, quoi. Et donc la religion est venue par la force des choses. Quand on parle de croisade, on parle de religion, quoi.
D'accord.
C'était pas mon sujet.
D'accord, mais parce qu'a priori, on pourrait penser que une société qui se développe technologiquement, qui développe des nouveaux moyens de communication, d'accès à l'information, aurait tendance à délaisser un peu la religion. En tous les cas, au XXe siècle,
oui, c'est la réalité,
c'est un peu ce qu'on pensait. Ouais. Et il semble que le XXIe siècle tourne en sens inverse.
Oui,
et que les nouvelles les nouvelles technologies qui pouvaient être souvent décriées sont finalement utilisées également.
Mais les nouvelles technologies, la technologie en général, ce ne sont que des outils, en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société, une époque qui quand même s'éloigne quand même beaucoup de la religion, même s'il y a des résurgences comme il y a eu à l'occasion des manifestations sur le mariage pour tous. Il y a des résurgences, mais on est quand même dans notamment en France, on est quand même dans un des rares pays qui est réellement laïque. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup sur Terre qui soient dans ce cas-là, quoi. Mais pour moi, la technologie et la religion, ce n'est pas deux choses qui sont contradictoires. C'est-à-dire que la technologie, c'est vraiment un outil. Et moi, je suis parti du postulat que pour que la société que je décris soit redevenue féodale et donc très religieuse, il fallait forcément, comme souvent dans ces genres de romans-là, une catastrophe planétaire, une guerre apocalyptique, comme on dit, et qui remet tout à plat. Et donc à partir de cette guerre apocalyptique, tous les gens, dans les décombres de leur monde, réapprennent à vivre à petite échelle, reviennent à un mode de vie féodal par la force des choses, pas par choix. Et donc le corollaire de ça, c'est forcément le retour de la religion. Mais si on perd tout, quand on a un cataclysme terrible qui vous frappe de cette manière-là, il y a une chose qui ne se perd pas, c'est la connaissance. Et même si elle peut être mise sous le boisseau, cachée, non exploitée, ce qu'on veut, la connaissance, une fois qu'elle est là, elle demeure. On peut l'oublier quelque temps, mais elle demeure. Et donc, très rapidement, quand les pays recommencent à relever leur économie et renaissent de leurs cendres, ils restent très religieux. On continue d'opprimer, dans mon roman, je parle bien sûr, on continue d'opprimer les peuples grâce à la religion, mais la technologie, elle, repart sur les bases précédentes. Elle ne repart pas de zéro. Et donc, ce qui permet d'avoir ce contraste presque paradoxal entre une guerre de religion, dans ce cas-là, de plus archaïque et ancien, mais qui est menée dans un vaisseau ultra-moderne avec des technologies extrêmement modernes de destruction guerrière.
D'accord.
Est-ce que oui. Je peux te poser une question ? Est-ce que tu as lu les romans de David Camus sur... Sur les croisades, justement, les chevaliers du royaume, Morgène, parce qu'il a des positions assez semblables aux tiennes sur la religion, ouais. Et il traite les croisades dans un esprit magique. Il fait un mélange de ce genre, ça pourrait peut-être t'intéresser.
Non, par contre, j'ai dévoré toute la série des Fortunes de France de Robert Merle, qui traite des guerres de religion en France, donc bon, c'est pas tout à fait la même époque, mais qui développe ce point de vue de manière très intéressante. Moi, c'est justement un des points de départ de mon idée, qui était que même au sein d'une société qui est peut-être pas fanatisée, la Renaissance n'est pas vraiment fanatisée, mais qui est vraiment très très empreinte de religion, il y a toujours des gens qui vont avoir un petit déclic un jour, qui vont avoir un doute, qui vont commencer à se poser des questions et qui vont tomber nez à nez avec ces contradictions incroyables qu'on peut avoir parfois dans la religion, quoi. Ça, c'est vraiment très, très présent dans Fortune de France. Très intéressant.
Alors, ça renvoie à une autre question. On comprend bien pourquoi les dirigeants ont intérêt à utiliser la religion comme méthode de gouvernance. Je pense à la signification première de l'islam. L'islam, ce n'est pas seulement la religion, c'est la soumission. La soumission à Dieu. Donc, à partir de là, le peuple qui est en dessous doit accepter les ordres qui sont censés venir de Dieu. En réalité, ils viennent d'un système retranscrit par les hommes, qui est effectivement, comme on l'a dit, assez loin du mysticisme premier. Mais qu'est-ce qui pousse un individu à accepter ça ? Pourquoi à titre personnel. Alors peut-être Pierre, parce que dans tes romans, souvent tes personnages sont pris entre leur recherche de spiritualité et leur conditionnement et l'acceptation d'une forme de religion.
Je pense que les religions, principalement les religions du livre avec le Dieu unique, sont des religions matérialistes, je m'explique. C'est-à-dire qu'elles font dépendre le salut de l'être humain d'un élément extérieur qui s'appellerait Dieu, qui serait un être extérieur à eux. Et je pense que c'est l'erreur fondamentale des religions du livre. C'est de considérer Dieu comme une sorte de bonhomme sur son nuage qui fait les choses et défait les choses. Je préfère nettement la vision polythéiste qui incarne la divinité dans chaque chose quasiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de fanatisme dans les religions polythéistes parce que chaque aspect de la vie est pris en compte par, ou décrit par un dieu. Et quand il y a un autre dieu qui arrive d'ailleurs, un Jésus, il n'y a pas de problème, bienvenue au club, quoi, il y a de la place, on accepte.
Les premiers chrétiens ont quand même été vachement persécutés.
Non, mais pas les Romains. Tu veux dire, il s'agit de... Oui, après, pour l'histoire des Romains, je parle plutôt des religions asiatiques. Et tout ça. Les Romains étaient, c'est un empire qui ne tolère pas le désordre à l'intérieur de l'empire et que c'est un facteur de désordre, une religion comme ça. Bon, bref, c'était éminemment politique, il me semble, Rome, parce que je pense que les Romains étaient par ailleurs assez tolérants sur le plan religieux.
Oui, presque indifférents même à la religion.
Ouais. Oui. D'ailleurs, à un moment, il y a eu une sorte d'interrogation entre la religion de Mitra et le christianisme pour la religion d'État romaine. Les légions romaines, elles, véhiculaient la religion de Mitra parce qu'elle était solaire, guerrière, ce qui les arrangeait beaucoup plus. Bon, bref. Et donc, je pense que l'erreur fondamentale de ces religions, c'est de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Et c'est là tout le drame. Et c'est pourquoi les gens acceptent... tout ce genre de croyances, ce système de pensée, c'est parce qu'ils ont l'impression que ce système-là va les emmener quelque part vers le bonheur. Tout à l'heure, tu as parlé de la peur de l'enfer. Moi, j'étais terrifié aussi. Quand j'étais petit, je dis, si je fais des bêtises, je vais aller en enfer pour jusqu'à la fin des temps et des temps. J'essayais d'imaginer ce que c'était que l'éternité de souffrance. Quoi. Et c'était absolument terrifiant. Je me disais, mais je vais faire mes prières, je vais tout faire et tout ça. Quoi. Donc, ça fonctionnait beaucoup sur la peur parce que l'élément qui va donner le bonheur ou le malheur, il est extérieur.
Et donc, il faut lui faire plaisir et
agir en fonction de... Et je pense que la divinité, ou s'il y a une divinité, ou de la spiritualité, se vit de l'intérieur. Et qu'elle n'est... Il y a je ne sais pas combien de personnes dans cette salle. Je ne sais pas compter. Mais chacun a une vision différente de la chose. Chacun a une expérience différente. Et c'est une collusion d'expériences, plutôt, enfin, pour moi, la religion. Enfin, ce qui devrait relier, justement, parce que c'est l'étymologie du mot, ça devrait être, justement, de pouvoir permettre d'exister... Tu parlais de l'espace laïque. Alors, ça devrait être une espèce d'espace comme ça où toutes les expériences sont les bienvenues parce qu'elles enseignent toutes quelque chose à quelqu'un. Par ailleurs, l'espace laïque français, il est de type religieux, à mon avis, parce qu'il est un peu fanatique aussi. Après, on pourra en discuter. je lance ça comme ça. Mais, pour moi, c'était un espace où tout... Normalement, oui, c'est un espace où tout est autorisé, tout est toléré. Mais bon, après, c'est pas devenu ça, parce que Robespierre avait déjà donné une définition de la laïcité, enfin, quelque part, et on suit cette définition donnée par Robespierre. Bref, ça, c'est un acquis de la Révolution. Mais bon, je pense qu'il faut chercher à l'intérieur ce qui n'existe pas à l'extérieur. Et la religion a préparé le matérialisme, parce que le matérialisme, c'est exactement la même chose que la religion. Je pense que ce sont des religions matérialistes, les religions principalement du livre, parce que le matérialisme, c'est la même chose, c'est on fait dépendre notre bonheur de conditions extérieures. Or, ça ne marche pas. Avoir plein de pognon, ça ne marche pas. Les gens les plus riches au monde, ils sont tous sous antidépresseurs. Donc ça ne marche pas, les gars. C'est pas la peine d'essayer d'accumuler des richesses et d'appauvrir le reste du monde. Ça ne marche pas. Vous ne serez pas heureux. Donc cette recherche du bonheur, elle passe pas par cette espèce d'accumulation matérielle, comme on a accumulé en quelque sorte les grâces du temps de la religion pour pouvoir bénéficier du paradis ensuite en disant voilà, j'ai fait des choses bien dans ma vie, j'ai accumulé, j'ai mis de côté pour mon paradis, j'espère que je l'ai gagné. Donc c'est exactement le même principe et je pense qu'il faut se décoller totalement de cette espèce d'idée et revenir aux notions plus chamaniques de base, qui est l'expérience. Rien ne remplace l'expérience, et l'expérience, elle n'est à nul autre pareil. On ne peut, et c'est pour ça que les disciples se plantent tout le temps par rapport au prophète, parce qu'eux, ils n'ont pas l'expérience, donc ils vont traduire par des mots l'expérience en disant « c'est comme ça qu'il faut penser », parce que lui, il a dit que c'était ça, puis l'autre dit « ouais, moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça qu'il a pensé, il a pensé comme ça ». Et donc, toutes les divisions apparaissent à ce moment-là, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'expérience. Donc, à mon avis, la seule façon de s'en sortir par rapport au fanatisme religieux, c'est de chercher sa propre expérience, donc aller vers son chemin de libération intérieure, quoi.
Donc, les religions comme un prêt-à-penser de la spiritualité...
C'est un échec total.
Enfin. Donc, il y a un côté, pour ceux qui rentrent là-dedans, presque de facilité en se disant...
Ben oui, c'est une façon de se rassurer.
J'ai
par
un mode d'emploi.
Peurs,
ouais. J'ai un mode d'emploi. J'ai pas, donc, du coup, pas la peine de passer tout ce temps à rechercher, à faire des erreurs. Il n'y a plus d'erreurs possibles. Mais il n'y a plus de découvertes possibles.
Non. Et d'ailleurs, l'Église catholique a toujours eu du mal avec ses mystiques, hein, comme Angélus Silésius et des gens comme ça, qui étaient totalement hors des sentiers battus et qui étaient dans l'expérience pure de la relation directe avec leur Dieu, avec leur vision de Dieu, et qui ne correspondaient pas du tout au dogme romain. D'ailleurs, romain, ce qui est marrant, c'est que l'Église, elle est romaine, quoi. Elle s'est établie sur les ruines de Rome, quand même, quelque part. Elle est impérialiste presque de naissance, quoi. Son acte de naissance était impérialiste, déjà. Enfin, bon, bref. Et donc moi, j'engage l'humain à chercher vraiment au fond de lui ce qu'il y a et ne pas attendre de l'extérieur ce qui pourrait, qui n'arrivera jamais, d'ailleurs.
Alors, par rapport au rôle de la religion, on voit que l'individu qui veut rentrer en religion trouve un cadre pour exprimer une recherche personnelle, qui, et pour le garder dans ce cadre, il y a l'utilisation de la culpabilité quand même,
les femmes en ont beaucoup souffert, d'ailleurs, évidemment.
Ça, les femmes et la religion, je n'ose même pas aborder
c'est un truc extrêmement patriarcal, la religion.
Ce sujet, mais les religions monothéistes sont particulièrement violentes.
Mais j'ai l'impression qu'elles ont aussi été créées pour... c'est une sorte de façon de contrôler la sexualité et donc la génétique et donc la transmission, parce qu'elles sont aussi beaucoup liées sur la transmission. Elles sont beaucoup liées... Je reviens toujours à cette forme de matérialisme. Et que donc, on veut s'assurer que la lignée soit bien de soi. Et la seule façon de contrôler ça, c'est de contrôler la sexualité des femmes, quoi. C'est-à-dire de leur interdire toute relation, etc. Et de...
Il y a énormément de domaines sur lesquels les droits des femmes, plus les sorcières. Pourquoi c'était surtout les sorcières qui étaient visées et pas les sorciers? Parce qu'il y avait une détention de savoir, de médecine, et aussi de contrôle de la sexualité. Les sages-femmes savaient des choses de la vie de la femme et de la vie, de la création de la vie. Donc il y a quelque chose de fondamental dans le contrôle de l'accès au savoir aux femmes par la religion. Ça, c'est une évidence. Mais alors, par rapport au rôle des religions, là, on aborde plutôt maintenant le côté fanatique religieux. Francis, vous me direz ce que vous en pensez, mais la différence entre rentrer en religion et être face à un fanatique religieux, c'est que celui qui rentre en religion se culpabilise lui-même dans sa manière de vivre par rapport au dogme qu'il souhaite suivre, mais de la même façon, chaque personne qui se fixe un mode de vie peut se sentir coupable. Je pense à telle personne qui choisit à un moment de rentrer dans une logique très complètement végétalienne peut se sentir mal dès qu'il s'agit de dévier un tant soit peu de ce mode de vie. En revanche, le fanatisme a un autre impact. Il culpabilise des personnes autour de lui qui ne lui ont rien demandé.
Moi, je crois que le problème fondamental, tu emploies le mot fanatisme, moi j'emploie le mot intégrisme, ce qui se rejoint à peu près. Mais le problème de l'intégrisme, c'est qu'il peut être appliqué absolument à tout, pas seulement aux religions, mais il peut être appliqué aux partis politiques, il peut être appliqué à une pratique du sport, il peut être appliqué à une façon de manger. On peut être intégriste de n'importe quoi, on peut être intégriste de la moutarde de Meaux, on pourrait être intégriste du Paris-Brest, on peut être intégriste d'absolument n'importe quoi.
De la science-fiction.
De la science-fiction, absolument, il y en a. Il y en a et c'est terrible.
De l'esthétisme partout.
De l'esthétisme de telle manière et pas telle autre. L'intégriste, c'est celui qui sait et qui n'admet pas que on pense différemment. Et je dirais, l'intégrisme, c'est la forme sociale de la paranoïa. Attends, on fera les questions et les interventions peut-être après. Donc, la religion est un terrain de choix pour l'intégriste. Alors, on a vu ce retour du refoulé l'année dernière avec Sainte Christine Boutin qui est devenue la Madone de la religion, prononçant cette phrase magnifique: je ne peux pas être homophobe parce que je suis chrétienne, alors que tous ces actes démontrent que c'est la pire homophobe qui existe en France. Et ça rejoint les contradictions dont vous parliez tous les deux tout à l'heure, entre justement le principe et la manière dont il est mis en pratique. Et personnellement, sur mes pages Facebook, je traite volontiers de Christine Boutin en la représentant sous la forme de la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles, parce que je trouve que c'est exactement ça, qu'on lui coupe la tête.
Je voudrais juste rappeler une phrase de l'Évangile qu'il faudrait lui rappeler, c'est que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre.
Oui, absolument. Absolument. Donc elle est totalement contraire au christianisme même qu'elle défend. Et moi, j'ai personnellement très mal vécu ça, parce que j'ai vu l'évolution de la société par rapport à l'homosexualité en forme de balancier. Les années 70 ont été une extraordinaire période de libération. Là-dessus, au début des années 80, est arrivé le sida, donc on a eu une extraordinaire période de régression. Puis au milieu des années 90, avec les trithérapies, on a à peu près jugulé le sida, du moins dans les pays occidentaux. Donc on est reparti dans une période d'expansion et de libération. Et l'année dernière, on assiste à quoi ? Un formidable retour du refoulé, soutenu par la religion, avec des bonnes femmes qui disent « j'ai rien contre l'homosexualité, mais c'est contre nature hein. ». Bon, on en a même fait une chanson. Et c'est terrifiant, c'est juste terrifiant. Et quand je dis le retour du refoulé, je crois que c'est vraiment une réalité. Et ça répond à une question qui a été posée tout à l'heure, justement. Pourquoi tout à coup les gens se déchaînent dans une religiosité inattendue qui n'est même consécutive à aucun événement dramatique, aucune explosion. Bon, là, il y a une crise économique latente, donc ça peut-être intervenir. Mais c'est fondamentalement ça. Ça a été refoulé pendant une certaine période. On a gardé pour soi parce que c'était mal vu de dire ce qu'on pensait. Et puis tout à coup, plein de gens se sont aperçus qu'au nom de la religion, ils avaient le droit de tenir les propos les plus intolérants, les plus invraisemblables. Et ils se sont totalement déchaînés dans cette direction-là. Et c'était effrayant à voir. Donc, l'année dernière, j'ai eu la révélation que l'intégrisme chrétien, c'était pas mieux que les islamistes durs et purs. C'est juste exactement la même chose.
François Baranger, vous, dans votre univers, sur la Terre post-apocalyptique, avec cette religion omniprésente, comment les individus réagissent par rapport à cette pression ? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui se posent des questions, qui remettent ça en cause ? Est-ce que la rencontre avec une autre planète va créer un choc.
Ça, c'est dans le tome 2. Le tome 1, c'est le voyage, et le tome 2, c'est pas sur la planète, à la rencontre de ce peuple qui, justement, sans rien spoiler, est a-religieux. C'est-à-dire qu'il ne, c'est une des difficultés de compréhension entre les deux parties, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre le concept de religion. C'est ça qui m'a amusé. Moi, c'est d'essayer de créer une culture qui, selon ses propres termes, n'a pas besoin d'explication du monde. C'est-à-dire qu'il se satisfait du monde tel qu'il est. Si on lui en propose une, pourquoi pas, tant mieux, mais qu'il ne la recherche pas spécialement. Qu'il ne panique pas à l'idée de ne pas avoir d'explication. Quoi.
Alors, sans chercher d'explication, est-ce qu'ils ont une recherche quand même scientifique
Non.
Non beaucoup, plus. Non. D'accord. Non, mais ça, c'est intéressant parce que je sais que.
Non, mais il y a un parallèle avec les Romains de l'époque qui. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire romaine, mais qui, d'après ce que j'ai compris, étaient donc païens, avaient beaucoup de croyances presque au second degré, d'une certaine manière, auquel eux-mêmes ne croyaient pas vraiment, qui était plus de l'ordre de la superstition, et qui n'avait donc pas de, qui n'avait pas ce besoin de rechercher une explication au monde et un sens profond à la vie au-delà de l'expérience du quotidien. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça qui me paraît le plus éloigné des grandes religions monothéistes telles qu'on les connaît. Les grandes religions monothéistes se sentent obligées de justifier tout ce qui les entoure par une intervention du divin, et en l'occurrence personnifiée par une créature, une entité. Et c'est évidemment, quand on s'y penche un petit peu, très peu plausible, quoi, très difficile à accepter. Et pourtant, on l'a accepté pendant des siècles et des siècles. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment qui est frappant. Et cela dit, pour revenir sur la question de l'intégrisme, l'intégrisme, évidemment, il n'est pas que religieux. La différence, cela dit, entre l'intégrisme religieux et les autres, c'est sûrement le prosélytisme. C'est-à-dire que quand on est religieux, on a une espèce de, à quelques exceptions près comme le bouddhisme, on a une vocation à convaincre les autres. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez frappant, comme si on avait peur que le choix qu'on a fait de croire en telle religion, eh ben finalement, si on est les seuls à croire, peut-être qu'on se trompe. Alors que si on est beaucoup dans cette croyance, eh ben on est renforcé, on est affirmé là-dedans.
Mais tu peux dire la même chose du militantisme politique.
Ah non, mais il y en a d'autres, bien sûr, qui sont prosélytes. Mais j'ai jamais eu de débat houleux avec un végétalien. Ça peut arriver, sûrement. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de guerre déclenchée dans ce nom-là. Bon. Et moi, il ne se passe pas une semaine chez moi sans qu'on ne sonne pas à ma porte pour me parler de la parole de Jésus. Mais vraiment, c'est un truc, quelque chose que je trouve absolument fascinant, quoi.
Mais c'est assez nouveau, ça. Ou non, ça a toujours. Il n'y en a pas plus ou moins qu'avant.
Sûrement des périodes.
Je ne sais pas.
Je pense que c'est
une question.
Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que l'intégrisme, finalement, c'est une sorte de cocon. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de penser. Et on n'a pas besoin de penser par soi-même, on pense avec les pensées des autres. Des pensées qui ont déjà été élaborées, eh ben, on se les met dans la tête et puis ça évite d'avoir à se poser trop de questions, quoi. Parce que sinon, des questions, on s'en pose toutes les journées. Et il ne se passe pas une journée sans qu'on ne soit pas face à quelque chose qui paraît absurde ou injuste. Et donc ça, je pense que c'est difficile quand on n'a pas envie de trop se poser de questions. C'est difficile de vivre avec ça, quoi. Et à titre d'exemple, même si ça n'a absolument aucun rapport avec la religion, j'ai toujours été stupéfait, moi, de ce qui s'est passé en Allemagne pendant la guerre, où on était quand même... L'Allemagne, c'était la première puissance du monde. C'était là où il y avait les plus grands scientifiques, il y avait d'immenses musiciens, d'immenses écrivains. Et c'est vraiment toute la vie intellectuelle en Allemagne dans les années 40 était au sommet. Et n'empêche que le pays s'est auto-consumé dans une espèce de folie destructrice et complètement délirante. Comme jamais aucun autre pays ne l'a fait, en tout cas à cette période-là, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut prendre les gens les plus avancés du point de vue de leur époque, les plus éduqués, les plus audacieux intellectuellement, et les transformer collectivement, alors même si évidemment ce n'est pas l'ensemble du peuple allemand, mais c'était quand même une majorité, les transformer en une machine de guerre et de destruction et d'intolérance vraiment à son plus haut degré, quoi.
Donc, on revient du coup à la thématique de cette table ronde qui était le fanatisme religieux sous le signe de la bête. Alors, moi, ce sous-titre m'a fait quand même un petit peu réfléchir, mais de quelle bête ? Parce que quand on dit sous le signe de la bête, on peut penser au diable, on peut penser à la montée du nazisme, du totalitarisme, de l'intégrisme extrême. Pour vous, ce sous-titre évoque quoi ?
Moi, ça m'évoque le pire de l'homme. La religion peut provoquer le pire de l'homme. Il n'y en a jamais aussi bien tué de façon aussi massive que pour les religions, qu'au nom de Dieu. Ça me fait penser à cette expérience dans le film Icom Icar. Je ne sais plus comment s'appelle cette expérience, où selon le degré de responsabilité... Ouais, c'est ça. Où selon l'autorité de la personne qui est au-dessus, vous pouvez commettre plus ou moins des actions. Et comme l'autorité suprême, c'est Dieu, finalement, vous pouvez commettre les pires actions, de toute façon, puisque vous avez l'absolution de l'être qui est au-dessus de tout. Et... Tout à l'heure, Georges. Ouais. Mais vu comme ça, oui, effectivement, c'est la bête lui-même, quoi, finalement. C'est-à-dire c'est celui qui pousse à faire les pires actions. Et on en voit là, il y a des images internet qui sont assez terrifiantes sur les exactions religieuses dans le monde. J'ai écrit un livre là qui va sortir au mois d'août qui s'appelle Un jour la guerre s'arrêta, qui parle de ça, de gens prisonniers de systèmes de croyance jusqu'à lapider des femmes ou ce genre de choses. Il faut vraiment être à un degré de conditionnement extrême pour pouvoir faire ce genre de choses en toute bonne conscience. Il faut vraiment avoir un retournement de l'individu qui est absolument extraordinaire, parce que si on s'arrête deux secondes à la chose, c'est une monstruosité. C'est peut-être ça la bête dont tu parles. C'est-à-dire qu'on est capable de choses monstrueuses, mais absolument incroyables, au nom de Dieu. Et tu parlais des guerres de religion tout à l'heure, entre protestants et catholiques, ça a quand même été très sanglant en France, alors qu'on est, c'est la même branche, hein, quasiment, c'est le christianisme, juste pour des questions d'interprétation. Et on a été capable de tuer des gens, des femmes, des enfants, des hommes comme ça, dans leur sommeil ou sans défense. Donc c'est ça la bête pour moi. La bête, c'est être capable de faire ce genre d'exaction au nom de Dieu.
Donc au nom de la, en utilisant la religion, on arrive ainsi à inhiber le côté humaniste.
Absolument.
De chaque être humain.
Absolument.
Qui fait qu'on regarde l'autre avant tout comme un humain et qu'on ne peut pas le tuer parce qu'on a de l'empathie.
On oublie l'humain en face. Ouais.
On oublie l'humain.
Le conditionnement est tellement fort que le premier conditionnement qui est celui de l'humain, finalement, la nature même de l'être qui est humaine est totalement oubliée, niée, quoi.
D'où l'homophobie, par exemple, des chrétiens qui les regardent d'emblée.
Une autre phrase du Christ pour montrer à quel point ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. Ça veut dire que chaque exaction commise sur un humain, c'est à chaque être humain qu'on l'a fait. C'est à l'humanité qu'on le fait. Quoi.
Mm-hmm. Oui, bon, moi je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Juste pour amener un petit sourire en cette fin de débat. J'avais prévu de vous apporter une image que j'avais trouvée sur Facebook, et naturellement, en faisant mes bagages, je l'ai oubliée, donc je vais vous la décrire. Il y a un curé, un petit garçon, et au-dessus d'eux, il y a un grand crucifix avec le Christ donc crucifié, avec la barbe, les cheveux longs et le petit pagne. Et le petit garçon montre le doigt pour demander ce que c'est, et le curé lui répond « Mais non, ce n'est pas Conchita Wurst qui fait l'avion, petit con !»
Celle-là, je ne l'avais pas encore vue.
Elle était très belle. Je voulais vous la porter, mais bon.
Et pour vous, François, donc, cette bête liée au fanatisme religieux, on la retrouve chez vos personnages, dans votre société.
Ouais, moi, j'ai l'impression que la bête, c'est nous. C'est-à-dire que fondamentalement, moi, j'ai toujours pensé que l'humain... cet animal, fruit de millions d'années d'évolution, de centaines de millions d'années d'évolution, pendant laquelle l'évolution justement a sélectionné avec acharnement les individus les plus belliqueux, les plus agressifs, les plus forts, les plus violents, parce que c'est les plus aptes à survivre, et ben, le résultat, il est là. C'est-à-dire qu'on se fait la guerre en permanence. On ne sait pas faire autre chose que faire ça. Et moi, des fois, quand j'entends l'humanité, l'humain au sens... en tant qu'adjectif, est-ce que vous êtes humain, j'ai l'impression qu'être humain, c'est se faire la guerre. Et que ceux, justement, qui sont humanistes sont les moins humains d'entre nous, sont les plus rares. Finalement, à l'échelle de l'histoire humaine, c'est les plus rares. Ceux qui ont été capables, à un moment donné, de dépasser leurs conditions d'animal et d'avoir envie de dominer son voisin pour avoir plus de conquêtes que lui, plus de territoire que lui, et bah, c'est quand même une minorité, quand même. Donc je crains que la bête, ce soit nous.
Mais est-ce que, justement, l'erreur des religions ne serait pas aussi de vouloir absolument décider de ce qui est bien, de vouloir sélectionner dans l'humain une partie au détriment d'une autre, un choix de pensée au détriment d'un autre, sans laisser ce conflit permanent entre...
Oui, mais j'ai l'impression que ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un peuple qui soit religieux comme ça, qui accepte le monde tel qu'il est, les religions font exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elles essaient de stopper le temps et de projeter. En fait, la religion, c'est l'anti-présent. C'est-à-dire que ça empêche de voir son présent parce que c'est toujours projeté vers... si on fait ça, on aura le paradis. Si on fait ça, on gagnera des choses. Si on fait ça, bon... Et du coup, j'ai l'impression que ce qui... Souvent ça dans mon livre, c'est un peu une obsession même, c'est d'essayer de trouver le moment présent. Et le moment présent, c'est l'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire la résignation ou la soumission, mais veut dire l'exploration de ce qui est, tout simplement. Et la religion, elle est souvent l'inverse. Ce n'est pas ce qui est, c'est ce qui sera.
Oui, mais pour ça, elle s'appuie sur ce qui a été écrit.
Alors, c'est ça, elle X se base siècle. Sur deux. Elle n'est jamais dans le présent parce qu'elle est toujours soit dans le passé, soit dans la projection. Et c'est le drame aussi de l'humanité, c'est qu'elle n'est pas capable maintenant d'être dans le moment de ce qui est. De regarder ce qui est et de dire, voilà, ce qui est, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et peut-être qu'on aurait des solutions nouvelles, c'est-à-dire qu'il ne deviendrait plus du passé des anciens dogmes, mais qui serait une sorte d'espace d'ouverture qui donnerait à une nouvelle façon d'organiser les choses.
Et donc maintenant, il est 13h.
Donc voilà, c'est ce qui est.
C'est ce qui est. Et par conséquent, je tiens vraiment à vous remercier tous les trois, Pierre, Francis et François. Et je vous invite à continuer peut-être les discussions, peut-être après le temps d'un repas pour les auteurs. En tous les cas, en début d'après-midi, vous les retrouverez sous la bulle du livre. Et merci à tous de votre présence et à bientôt.